France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, la France, grand pays scientifique, va-t-elle continuer de faire éclore des chercheurs internationalement reconnus? La France peut-elle encore être attractive pour les scientifiques du monde entier? Question qui va de pair avec le budget de la recherche scientifique française, amputé la nuit dernière par les sénateurs, et avec quelles conséquences pour les chercheurs en France? Un coup de rabot à 630 millions d'euros sur les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si par amendement 100 millions d'euros iront soutenir les universités. Si l'on s'en tient au texte de la nuit dernière, la trésorerie du CNRS sera amputée de 100 millions d'euros. Des économies aussi dans la recherche sur l'énergie, le développement et la mobilité durable, la recherche spatiale également. La gauche dénonce une vision à court terme. Cela dit, le projet de loi de finances 2025 peut encore évoluer en commission mixte paritaire pour satisfaire les socialistes notamment qui menacent de voter la censure lors de l'examen final. Quand la recherche française recherche des crédits. Pourquoi l'argent est-il le nerf de la recherche? C'est le thème ce soir et on attend vos questions. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avant de vous présenter nos invités, une première auditrice, Céline, nous appelle de Lyon. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou témoignage?
C'était un témoignage plutôt pour dire que je suis donc ingénieure d'études au CNRS et que depuis à peu près la rentrée 2025, il y a 15 jours, tous les logiciels de gestion financière des labos sont fermés, sont bloqués. On ne peut plus faire aucun achat, aucune dépense. Et que du coup, je me pose beaucoup de questions. Il y a les Key Labs là qui vont tomber, donc seulement certains labos seront bientôt dotés, mais pas les autres. Donc il y a un gros dégraissage de mammouth qui nous pend au nez, et je me pose beaucoup de questions par rapport à la recherche française et notamment la recherche médicale. Et je fais un lien avec ce que j'entendais sur le journal France Inter il y a quelques temps. Bientôt, est-ce qu'on sera comme en Angleterre à devoir attendre 2 à 3 mois pour avoir notre chino dans un hôpital parce qu'il n'y a plus de sous pour acheter le nécessaire?
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Céline. Pour vous répondre ce soir, trois invités. Françoise Combes, astrophysicienne, présidente de l'Académie des sciences. Élise Huillery, économiste, professeure en économie du développement à l'Université Paris-Dauphine. Et en ligne avec nous, Dean Lewis, qui est vice-président de France Université et président aussi de l'Université de Bordeaux. Bonsoir à tous les trois. Premier témoignage, je vais vous le soumettre. Françoise Combes, notre auditrice, parler de dégraisser le mammouth aussi dans la recherche, on en est là?
Oui, je pense qu'à l'Académie des sciences, nous sommes vraiment inquiets parce que c'est une dernière coupure, mais ce n'est pas la première, ça fait suite à un certain nombre de coupures. Et depuis plusieurs années, on sait que la France en recherche est en décroissance, elle décroche par rapport à l'Europe, et déjà l'Europe, comme l'avait dit Mario Draghi, décroche par rapport aux États-Unis, donc c'est vraiment une catastrophe. En fait, il y avait un espoir en 2020, parce qu'il y avait une loi de programmation de la recherche, LPR, qui était très ambitieuse, qui se projetait de mettre le crédit de la recherche à peu près à 3% du PIB, c'est le produit intérieur brut, alors que nous sommes à 2,2% actuellement. Et il y avait aussi une promesse de 20 milliards pour la recherche sur 10 ans. Et finalement, on a commencé à voir un tout petit peu les effets en 2021-2022. Et puis ensuite, finalement, à cause de coupures, en 2024, il y a eu 900 millions de coupures. Puis ensuite, France 2030 a eu moins 500 millions de coupures. Maintenant, moins 630 millions de coupures. Finalement, toutes ces coupures ont laminé tous les efforts de la LPR. Et on se demande vraiment si on n'est pas en train de reculer à nouveau et de continuer notre retard par rapport à tous les concurrents européens.
Élise Huillery, vous êtes, je vous rappelle, économiste. On a vu dans ce projet de loi de finances que d'autres secteurs étaient visés par les coupures budgétaires. Je pense au sport, par exemple. Est-ce que la recherche et l'enseignement supérieur sont particulièrement touchés par les coups de rabot cette fois-ci?
Oui, en pourcentage du budget, ce sont des coups de rabot importants qui viennent en plus de la loi spéciale qui déjà bloquait le budget 2025 à son niveau de 2024, ce qui, considérant l'inflation de 2% entre les deux années, provoquait déjà une baisse de 2% de baisse de budget. Et puis, en plus de cette baisse de 2% qui est commune à tous les ministères, nous avons cette baisse supplémentaire qui est très importante, moins importante que l'aide publique au développement, qui perd encore plus que la recherche et que l'enseignement supérieur, mais ça fait partie des postes de dépenses où la baisse est la plus importante. Et je voudrais, pour compléter ce que Françoise Combes a mentionné, redire effectivement que nous ne sommes qu'à 2,2% de notre PIB en dépenses intérieures de recherche, ce qui est beaucoup moins que d'autres. Alors, la moyenne des pays de l'OCDE est à 2,7%, donc c'est un demi-point de moins, mais c'est la moyenne de l'OCDE, c'est 37 pays. Si on prend les pays les plus avancés sur le plan de la recherche, prenons par exemple les États-Unis, évidemment, eux, c'est 3,5% de leur PIB qui est consacré aux dépenses intérieures de recherche, et nous 2,2.
Avec donc sûrement une continuité, contrairement aux coupures qu'évoquait Françoise Combes. Il y a une continuité dans les crédits accordés à la recherche aux États-Unis.
Aux États-Unis, il y a une continuité. Et donc, effectivement, ce ne sont pas des budgets qui ont été tout le temps élevés depuis tout le temps. Et donc, nous creusons l'écart avec ce manque d'investissement. C'est un manque d'investissement sur les personnels de recherche, les salaires et le nombre de chercheurs, mais aussi, évidemment, sur le matériel de recherche.
Eh bien ça, on va en parler toute la soirée, justement. Dean Lewis, vous êtes vice-président de France Université et président de l'Université de Bordeaux. 630 millions de moins pour le budget des universités et de la recherche, mais tout de même, un amendement avec 100 millions d'euros débloqués pour aller soutenir les universités. Que comprenez-vous à ce tour de passe-passe ?
Alors je pense, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues, hein. On était dans une situation en 2020 où la loi de programmation de la recherche faisait naître un espoir chez les chercheurs avec effectivement une prise de conscience qu'on était en retard sur l'investissement sur la recherche. Cette loi de programmation de la recherche, lorsqu'elle a été votée, elle a été jugée déjà insuffisante, hein, puisque c'est une loi qui programmait 5 milliards, de 0 à 5 milliards d'ici 2030 en plus pour les universités et les organismes de recherche. Ça c'est le constat. Et cette loi de programmation de la recherche, elle a été gommée aussi par l'inflation, puisqu'il y a eu un effet d'inflation qui a limité aussi les possibilités de dépenses pour les universités et les organismes de recherche. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième élément, c'est que dans tous ces chiffres qui sont compliqués à analyser, vous avez des budgets qui augmentent, mais dans ces budgets qui augmentent, vous avez des charges supplémentaires qui sont imposées aux universités, aux organismes de recherche. Par exemple, l'augmentation des fluides, hein, j'ai déjà mentionné l'inflation, ou les charges liées au salaire, hein, donc qui augmentent régulièrement. Ce qui fait que même si on peut voir un budget qui augmente de 100 millions d'euros, pour les universités sur les deux dernières années, on constate, en termes de dépenses possibles, une diminution de 300 millions d'euros.
On va retourner au standard 01 45 24 7000 avec Fred qui nous appelle. Vous êtes enseignant-chercheur à Toulouse, je crois.
Oui, tout à fait. Oui, merci pour vos émissions. Oui, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Et en tant que chercheur, donc pour les activités de recherche, puisque c'est la moitié de mon service, le reste je fais en enseignement, pour les activités de recherche, je ne comprends pas pourquoi l'État, qui me paye pas royalement, il faut bien le dire, hein, avec un salaire tout à fait modeste, ne me fournit pas les financements pour faire mon activité de recherche. En effet, le matériel que j'utilise pour mes recherches ont été payés par des contrats. Et effectivement, c'est un peu comme si l'État finançait des policiers, si vous voulez, mais disait aux policiers, ben, si vous voulez une arme ou si vous voulez d'un ordinateur pour faire les dépositions, ben, vous devez faire un contrat avec une entreprise ou avec une ANR, enfin pour nous ça s'appelle effectivement l'ANR, pour financer les moyens dont vous avez besoin pour faire la recherche. Voilà. Et alors, c'est d'autant plus compliqué que quand on a des contrats, et votre première auditrice l'a bien dit, là, actuellement, là, j'ai réussi à avoir un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec une entreprise privée, et on me dit, alors que c'est du financement que j'ai trouvé d'une entreprise privée, donc c'est pas l'État qui est impliqué. Et on me dit, non, c'est pas possible d'acheter du matériel pour réaliser ce contrat, ce n'est pas possible d'acheter des matériels car, effectivement, la loi de finances, la loi spéciale de finances ne prévoit que 25% du budget, etc. Bon. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'investissement. Donc, si vous voulez, on est dans un système où on nous paye hein, et on ne nous donne pas les moyens matériels pour travailler. Voilà. Et c'est devenu de plus en plus compliqué parce que
on va terminer votre témoignage parce qu'il y a d'autres auditeurs.
Je suis obligé de faire des marchés, de faire des
paperasses. On a compris l'idée générale. Merci beaucoup, Fred. Je rappelle que vous êtes enseignant chercheur à l'université de Toulouse. Je vais me tourner vers Dean Lewis, vice-président de France Université. Il faut donc que les chercheurs en université achètent, passe des contrats pour avoir le matériel ad hoc pour faire leurs travaux. C'est comme ça que ça se passe ?
Alors, c'est vrai que théoriquement, l'État alloue aux universités, aux organismes de recherche, des dotations, la dotation d'État, une dotation de base qui devrait permettre de faire fonctionner à minima l'activité de recherche dans les laboratoires. Et en fait, cette dotation de base est insuffisante et à cela se rajoute le fait qu'on a multiplié les appels à projets pour que les chercheurs aillent chercher des financements complémentaires pour justement financer leurs activités de recherche, ce qui se traduit par une surbureaucratisation de la recherche, parce que c'est des dossiers qui sont longs à monter, c'est des dossiers qui sont longs à justifier. C'est comme le collègue l'a mentionné, les chercheurs sont obligés de passer par les marchés, c'est de l'argent public. Et donc, on a aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a on a transformé des très bons scientifiques en gestionnaires hein, et qui passent beaucoup de leur temps académique à faire de la gestion de la paperasse parce qu'il n'y a pas aussi assez de personnel de soutien dans les universités, dans les laboratoires pour le faire à leur place.
Manque de moyens et donc manque de personnel. Françoise Combes, quels sont les pays en Europe et dans le monde qui restent attractifs
oui, pour alors les scientifiques ? Là, on peut en effet souligner, comme nous l'a dit l'auditeur, trois problèmes. Il y a le problème des salaires, comme il l'a dit. En effet, en Allemagne, il y a 20 ans, on avait un rapport 1,5. Donc les Allemands ont des salaires plus grands d'un 1,5. Aujourd'hui, c'est un facteur 3. En Suisse, les salaires sont 4 fois plus grands qu'en France. Et en Pays-Bas, en Suède, etc., tout est bien supérieur. Peut-être on commence à être au niveau de l'Italie ou de l'Espagne. Donc il y a ce premier problème. Il y a le deuxième problème de la lourdeur bureaucratique. Et en effet, ça incite pas à vraiment faire des projets puisque c'est très lourd. Et finalement, au lieu de faire de la recherche, on fait des appels à projets et de l'administration. Et puis, l'attractivité, en fait, elle est surtout dans les pays du Nord, aux États-Unis, même en Corée. Hein, le rapport le pourcentage de PIB donné à la recherche est 5% en Corée, et même en Israël, 5,5%, 3,5% en Suède, etc. Par
et
rapport à nous.
Est-ce que ça s'accompagne en même temps d'une fuite des cerveaux français ?
Tout à fait, et c'est ça qui est grave, c'est que nous sommes plus attractifs, et donc il y a une perte de savoir, perte de compétences, il y a beaucoup de Français qui partent à l'étranger. Alors justement, dans la loi LPR, il y avait cette volonté de faire revenir les Français, il y avait cette chaire de professeur junior, qu'on appelle CPJ, et qui donnait un petit peu un pont d'or pour que les Français reviennent, ça s'est arrivé plusieurs fois, bon, pas suffisamment, bien entendu, mais ça donnait vraiment un environnement de recherche avec des post-docs et des chercheurs, et puis un bon salaire pour ces gens qui reviennent.
Élise Huillery, les chercheurs sont-ils plus faciles à mettre à la diète que d'autres professions, d'autres secteurs qui sont capables de protester très médiatiquement? On l'a vu dans le sport avec la tribune cette semaine encore de Teddy Riner pour la baisse du revenu, pour la baisse du budget des sports. Est-ce que les chercheurs sont plus faciles donc à mettre à la diète?
Effectivement, si nous arrêtons de faire de la recherche, à court terme, ça ne va pas se voir. À court terme, alors, ça va se voir si nous arrêtons d'enseigner, parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des enseignants-chercheurs. Je rappelle le statut des enseignants-chercheurs. Hein, nous devons 50% de notre temps de travail dédié à l'enseignement supérieur et puis 50% à la recherche. Et c'est vrai que ça va se voir si nous protestons sur le plan des étudiants. Ça ne va pas se voir à court terme. À court terme sur le plan de la recherche. Donc ça va gêner personne. Par exemple, si je prends mes propres travaux de recherche, je pense que personne ne va s'en apercevoir si je fais grève. En revanche, c'est pour ça que je dis à court terme, c'est que ce qu'on sait d'après justement les travaux d'économie qui permettent de voir l'impact de l'investissement dans la recherche et dans la formation sur toute une société. Cet impact, il est extrêmement positif. C'est pas un impact immédiat, parce que nous formons des étudiants qui vont être ensuite des futurs employés, des futurs créateurs d'entreprises, des futurs innovateurs. Donc, on sait que une année supplémentaire dans l'enseignement supérieur, ça a un impact causal de environ 10% sur l'ensemble de la vie, sur les revenus de l'ensemble de la vie d'un individu, mais ça a aussi un impact sur la société en général, c'est-à-dire que ça a un impact positif aussi sur l'innovation, l'emploi, sur la capacité d'un, sur la santé par exemple, indépendamment de l'effet sur le revenu. C'est en fait l'investissement, l'enseignement supérieur et la recherche est un investissement qui se rembourse tout seul.
Mais
donc, couper les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche est un mauvais calcul économique, mais à long terme, à moyen et long terme, et donc à court terme, effectivement, c'est un peu le drame de notre profession, c'est que on ne va pas pouvoir, en criant très fort, avoir un énorme impact.
Vous souhaitiez réagir ?
Oui, tout à fait. Je pense que les politiques, en général, ont une vue à court terme. Ouais. Et donc, ils ont une urgence. Il faut absolument combler le déficit et trouver des milliards quelque part. Donc, on est la proie facile, on est la variable d'ajustement. Ils ne voient pas à long terme où, finalement, la recherche, c'est vraiment l'innovation et notre futur, en fait. Et le futur de la société, c'est la recherche à long terme.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Frédéric est en ligne. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Alors, pour le citoyen de base que je suis, la recherche, c'est un générique qui ne veut pas dire grand-chose. Il y a des recherches probablement utiles et des recherches inutiles. Si on fait de la recherche, disons, fondamentale en mathématiques ou en épidémiologie, ou pour trouver, disons, des batteries plus performantes, ça me va très bien. Si on fait de la recherche pour développer un biokérosène qui va faire voler un avion à partir de la biomasse, ça ne me va pas du tout. Donc j'ai l'impression que la recherche aujourd'hui, elle est, disons, orientée soit vers un gain financier immédiat ou sur un gain de pouvoir, mais qu'il n'y a pas de planification vers ce qui pourrait être utile. Alors j'entends bien que si des chercheurs partent, disons, à l'étranger, c'est qu'ils sont, s'ils sont mieux payés, c'est parce que la recherche, disons, qui va être orientée vers un bénéfice financier peut-être beaucoup plus que pour une utilité pour l'humanité. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fin de compte, planifier et mettre, disons, de l'argent peut-être sur un éventail moins large, mais beaucoup plus concentré et
Merci.
Beaucoup plus à long terme.
Merci de ce témoignage et de cette question. Françoise Combes, je vais vous la soumettre, présidente de l'Académie des sciences. Quand notre auditeur parle de planification de la recherche, c'est la planification vers l'utile. On va faire une différence, il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquer. Expliquez-nous ça.
Exactement. Et en effet, le gouvernement avait bien promis dans la LPR, dans la loi de programmation de la recherche, de l'innovation. Il y avait 20 milliards pour l'innovation et 5 milliards pour la recherche dans les universités et au CNRS. Et donc, la recherche fondamentale est vraiment très très importante. Parce que pour donner un exemple...
On va expliquer ce que c'est que la recherche fondamentale. Voilà, fondamentale. C'est qu'on cherche quelque chose qui ne sera pas forcément applicable tout de suite.
Voilà, exactement. On cherche pour savoir, par curiosité. Par exemple, ce n'est pas en améliorant énormément la bougie qu'on a trouvé l'électricité. On le sait, ça.
Je retiens l'exemple.
Ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a beaucoup. Quand on regarde l'atome, tout d'un coup, on a découvert la mécanique quantique. Ce n'était pas avec une application en vue. On a découvert le laser, on a découvert, etc. La relativité générale aussi, on sait qu'on peut faire des positionnements GPS. Mais Einstein, lorsqu'il avait découvert la relativité générale, c'est vraiment pour connaître la gravité et pour connaître les forces fondamentales. Il n'avait pas pensé au GPS. Donc tout ça, on voit bien qu'il faut une recherche fondamentale où les gens sont très curieux pour comprendre le monde qui nous entoure et comprendre la réalité des forces. Et puis on sait que plus tard, peut-être des années plus tard, on aura une application qu'on n'avait pas prévue. Et donc ça, c'est vraiment là où est le progrès. Le progrès fondamental. On ne peut pas se contenter d'avoir juste un progrès dans l'application.
Dean Lewis, vice-président de France Université, la recherche fondamentale en université également.
On est de toute façon en université ou en organisme de recherche, nous opérons la recherche dans des laboratoires communs, ce qui s'appelle les unités mixtes de recherche. Et je pense que c'est important, hein, ce qui vient d'être dit, c'est que quand vous interrogez les prix Nobel, on a beaucoup de prix Nobel quand même en France, ils vous disent les résultats, les applications qu'ils ont eues de leur recherche, c'est des travaux qu'ils ont menés il y a 30 ans. Donc c'est important effectivement de financer donc la recherche fondamentale au juste niveau en s'attendant à avoir des retombées à 10, 20, 30 longtemps. Et effectivement, de sortir d'une vision court-termiste qui est très impactée par des considérations budgétaires.
Élise Huillery, je lisais que la Cour des comptes invite la recherche française à se tourner du côté de l'Europe pour obtenir des crédits. Est-ce que ça veut dire que les scientifiques français n'utilisent pas tous les financements mis à leur disposition par l'Europe ?
Oui, j'ai entendu effectivement notre ministre également, quand il était au Sénat, dans son discours au Sénat, encourager les chercheurs à davantage se tourner vers les financements européens. En l'occurrence, les financements européens, c'est extrêmement sélectif, c'est extrêmement peu. Moi, par exemple, je bénéficie d'une ERC et je suis une des... c'est une des rares, on va dire, dans mon domaine à en pouvoir en bénéficier. Donc, c'est des financements qui existent. Nous sommes évidemment tous extrêmement intéressés par obtenir ces financements, mais ils sont extrêmement peu nombreux, peu en montant. Donc, se reporter sur l'Europe pour encourager les chercheurs à obtenir leur financement de recherche, c'est de la malhonnêteté, à minima de la malhonnêteté, parce qu'en réalité, ça ne suffira absolument pas tellement il y a une rareté des financements européens et une sélectivité de ces financements.
Oui.
Oui, je peux en effet voir pourquoi ils ont dit ça. C'est-à-dire que la France verse à l'Europe une somme qui est proportionnelle à son PIB, évidemment, c'est 17% du crédit à l'Europe. Bon, et on retrouve en retour seulement 12%.
I want my money back, disait Margaret Thatcher, c'est un peu le même esprit pour la recherche.
Finalement, on paye la recherche des autres, c'est les Anglais qui ont le plus de succès, les Allemands, et donc on pourrait faire plus de demandes. Mais pourquoi on en fait moins ? Eh bien, peut-être justement parce que nos crédits sont insuffisants et qu'on n'a pas développé la recherche chez nous, qui est déjà déficitaire, donc on n'a pas l'habitude de faire des demandes. En fait, lorsque les gens font les demandes, ils ont autant de succès que les autres. Hein. Le tout, c'est qu'ils font moins de demandes que les autres.
Et donc, il y a du rab à aller chercher
mais
un petit peu, mais c'est compliqué.
Mais ça concerne de toute façon des montants très très faibles.
Tout à fait,
de toute façon.
10% de succès.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Débat sur la recherche et son financement ce soir. Bonsoir Antonin.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Alors, moi, je suis un jeune chercheur et je suis à la recherche d'un tout premier emploi dans ce qu'on appelle un post-doc. Et on se retrouve avec des offres d'emploi qui sont très précaires, c'est-à-dire des CDD de 1 an et de 2 ans. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait être fait au niveau de l'attractivité de l'emploi pour avoir des emplois qui soient un peu moins précaires pour les jeunes chercheurs. Merci beaucoup.
Merci de ce témoignage. Il y a également d'autres témoignages de ce genre qui nous arrivent. Gilbert, chercheur en biologie depuis plus de 10 ans, lui, il constate que ce n'est pas facile d'embaucher les anciens qui coûtent désormais trop cher. Précarité de l'emploi, perte de l'ancienneté des connaissances, turnover monstrueux. Les équipes fonctionnent majoritairement avec des stagiaires et vous le disiez, pas toujours bien payés. Je vais retourner la question à Dean Lewis, vice-président de France Université, comment payer mieux, j'ose pas le dire, mais comment attirer les jeunes chercheurs et les entraîner dans cette voie de la science ?
Alors, la problématique, elle est importante, et c'est vrai que quand on regarde les niveaux des postdocs, quand on a des étudiants docteurs de l'université qui cherchent des postdocs, quand ils regardent les salaires qui sont proposés, notamment outre-Atlantique ou en Allemagne, souvent nos doctorants partent donc de France pour rejoindre ces pays.
Je vous coupe, Dean Lewis, ça explique qu'il y a régulièrement moins de doctorants en France ?
Alors non, ça n'explique pas. Le nombre de doctorants en France, effectivement, diminue. On a une baisse de 10% depuis les 10 dernières années. Et effectivement, on pense que la baisse de ce nombre de doctorants peut être liée aux conditions de rémunération qui ont été en partie corrigées par la loi de programmation de la recherche. En partie. Et il était prévu que ça puisse être encore augmenté, notamment en 2025. Donc il y a probablement une question d'attractivité. Et ce que l'on voit aussi, c'est que nos docteurs qui partent en post-doc sont attirés par l'étranger parce que les salaires sont meilleurs. Et lorsqu'ils reviennent en France, le problème qui se pose, c'est que les salaires des titulaires, des chargés de recherche CNRS ou des maîtres de conférences sont relativement faibles, on l'a déjà évoqué, et on pourrait se retrouver, si on augmentait les salaires, avec des post-docs qui auraient des salaires plus importants que les enseignants-chercheurs titulaires en début de carrière. Donc on a effectivement un problème global de grille de salaire pour nos chercheurs et pour nos enseignants-chercheurs qui se reportent aussi sur les doctorants et les post-docs.
Élise Huillery.
Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, on a ce problème de salaire, on l'a dit, et puis du nombre de postes insuffisants. Donc des postes peu payés, peu nombreux et précaires. La répercussion qu'on n'a pas encore mentionnée et que je tiens à mentionner, c'est pour nos étudiants, pour la formation. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que ce manque de postes et d'attractivité a un impact sur la recherche. Ce manque de postes et d'attractivité a un impact considérable depuis une vingtaine d'années sur les conditions de formation de nos étudiants. Un chiffre qui me paraît important de connaître, c'est que nos étudiants, le nombre a augmenté de 2,2 millions à 3 millions en 20 ans. Le nombre d'enseignants de l'enseignement supérieur, tout compris, les titulaires, les contractuels, tout compris, est resté stable sur cette même période. Donc, les conditions d'enseignement et donc les conditions de formation de nos étudiants sont dramatiques. Les universités, surtout au niveau de la licence, ont des amphis énormes, peu d'heures de cours. Nos étudiants, du coup, échouent pour 30% d'entre eux seulement obtiennent une licence en 3 ans, 70%
décrochent.
Alors, il y a des réorientations, ils ne décrochent pas complètement de l'enseignement supérieur, mais c'est du gâchis. Donc, ce manque de postes, ce manque d'attractivité dont on parle, il a non seulement un impact sur la recherche, mais un impact sur la formation dans l'enseignement supérieur, et ça a des conséquences catastrophique.
Je vais soumettre ce témoignage, ce commentaire d'Élise Hullery à vous, Dean Lewis. Vous êtes aux premières loges pour constater les conditions d'enseignement dramatiques, disait Élise Hullery. Vous le confirmez ?
Alors, moi, ce que je peux dire, on ne l'a pas mentionné, mais quand vous regardez la situation de la France, une majorité de l'activité de recherche est portée par les enseignants-chercheurs qui ont un service d'enseignement très important. Si on le compare à ce qui se passe en Europe, on est autour de 200 heures statutaires, alors que si vous allez en Europe, c'est une moyenne de 100 heures. Donc, ils doivent en même temps conjuguer de l'enseignement, notamment de l'enseignement en premier cycle avec beaucoup d'étudiants, et de la recherche au premier niveau avec la question de l'appel à projet pour aller financer sa recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui amoindrit l'attractivité du métier des enseignants-chercheurs. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport au fait qu'il fallait réinvestir aujourd'hui dans l'attractivité de nos métiers et aussi les conditions d'exercice de nos métiers, c'est que une grande majorité, plus de 50% des enseignants-chercheurs et des chercheurs vont partir à la retraite aux horizons de 2030. On a le nombre de docteurs formés en France qui diminue et va se poser la question cruciale du remplacement de la génération qui part à la retraite pour que notre pays garde son positionnement académique à l'échelle internationale. Et ça, c'est vraiment une question cruciale. Et si on ne réinvestit pas et si on ne rend pas nos métiers attractifs, on risque là de décrocher du point de vue de la recherche et de la compétition internationale.
Françoise Combe, présidente de l'Académie des sciences, vous souhaitiez réagir aussi sur la condition d'enseignement en France ?
Oui, sur la condition, comme notre auditeur l'avait dit, de post-doc est très précaire. Et en effet, il y a beaucoup évolué ces temps-ci, il y a 20 ou 30 ans, on obtenait un poste permanent après 2 ans de post-doc, par exemple. Aujourd'hui, c'est 6 ans en moyenne avant d'obtenir un poste permanent. Et ça, c'est très dommageable. Par exemple pour les femmes. Je sais que les femmes dans notre secteur en sciences, on était 30% autrefois, et c'est en train de diminuer le pourcentage de femmes, parce que s'il faut attendre 6 ans, 2 ans ici, 2 ans là, pour fonder une famille, c'est très difficile, et les femmes décrochent plus vite que les hommes, et donc la fraction de femmes qui fait de la recherche est en train de diminuer, ça c'est très préoccupant aussi.
Alors, pas mal de constats aussi pour mettre à l'abri la recherche. Je rappelle ce que disait la directrice de l'Institut Pasteur, Yasmine Belkaïd, il y a quelques jours. Il faudrait mettre la recherche à l'abri de toute fluctuation politique, disait-elle. Il faudrait sanctuariser des budgets. Je vous retourne la question vers l'économiste, professeur en économie du développement, Élise Hullery. Sanctuariser les budgets de l'économie, les budgets de la recherche, on fait comment ?
Alors, sanctuariser, pas à ce niveau-là. On augmente d'abord et ensuite on sanctuarise, parce que si on reste au niveau que j'ai rappelé, enfin, ou que Françoise Combe a rappelé, de 2,2 points de PIB pour la recherche, ça n'est pas suffisant. 1,6 points de PIB pour l'enseignement supérieur, ça n'est pas suffisant. C'est trop, trop bas. Et donc, il faut augmenter les budgets, les sanctuariser, oui, bien sûr. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas comme si... Alors, remettons-nous dans le contexte de déficit budgétaire. Là, on a, je pense, dépeint un tableau assez pessimiste de l'état de la recherche et de l'état de l'enseignement supérieur. Peut-être que les auditeurs se disent, oui, mais bon, nous sommes en déficit budgétaire, nous avons 6,1% de déficit dans, entre nos recettes et nos dépenses. Bon, bah voilà, on ne peut pas faire autrement. Alors, je voudrais quand même dire que, voilà, trouver des milliards, et c'est pour ça que, en tant qu'économiste aussi, je veux intervenir, ça n'est pas difficile. On sait, d'après des travaux d'économie qui n'ont aucun rapport avec notre sujet, mais par exemple, des la baisse des recettes fiscales depuis 2017 est de 60 milliards. Donc nous avons perdu 60% de recettes pour des réformes qui, pour un grand nombre d'entre elles, n'ont pas d'effet positif sur notre économie. Ça a été démontré par des travaux d'économistes. Je pense à la suppression de l'ISF, je pense à des allègements de charges sur des salaires élevés, etc. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas détailler. Mais donc, nous pouvons récupérer des recettes fiscales sur des ménages très fortunés, des patrimoines très élevés, et sur des profits d'entreprises grosses, des gros profits, de manière aisée. Et nous sommes en train de sacrifier la recherche, l'enseignement supérieur et d'autres ministères parce que un gouvernement ne veut pas rétablir les recettes fiscales dont on sait qu'elles sont absolument pas efficaces pour l'économie, ne veut pas rétablir ces recettes fiscales. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est simple à résoudre, mais que, idéologiquement, le gouvernement ne
c'est
veut
politiquement
pas
que ça ne suit pas, selon vous. Donc, je retourne au standard avec François. Vous nous appelez de Charente-Maritime. Bonsoir, François.
Oui, ben bonsoir à tout le monde. Oui, je vous appelle de Saint-Jean-d'Angély. Je vous fais part d'une expérience et en même temps d'une constatation. J'avais, il y a une trentaine d'années, parce que je commence à être avancé dans l'âge, j'avais un ami qui était dans la recherche fondamentale sur le laser. Il était sur l'université de Bordeaux et il a compris assez vite que la France n'était pas imprégnée par la notion de recherche qui dépasse la notion simplement d'argent et de financement. À partir du moment où un pays ne considère pas que la recherche fondamentale en particulier est une nécessité absolue, sinon on va vers des régressions, ou tout au moins par d'autres pays qui, eux, vont avancer alors que nous, non. Et à ce moment-là, lui a été obligé de s'expatrier aux États-Unis, où il a passé toute sa vie en tant que prof sur le laser, et il a fait du très bon travail, malheureusement, et il n'a pas pu convaincre la France entière, je dirais, hein, parce qu'on peut parler, bien entendu, du problème financier, mais je pense qu'il faut, à l'issue de cette constatation, je pense qu'il est préférable d'abord de bien considérer que la recherche fondamentale est une nécessité absolue.
Merci de ce témoignage. Merci. Françoise Combes, présidente de l'Académie des sciences. La recherche fondamentale, elle est onéreuse parce qu'elle l'est sans fin.
Oui, mais enfin, il ne faut pas être aussi pessimiste que notre auditeur tout de même, parce que on a eu des belles réussites dans le passé. On a des prix Nobel, par exemple, je pense à Alain Spee qui a eu le prix Nobel sur la physique quantique, de même Serge Haroche, de même Claude Kodentanouji. Donc on a une physique fondamentale qui est très forte. Et donc il suffirait peut-être de revenir, en effet, comme l'a dit Élise, revenir à une économie qui mais en plus, qui sanctuarise un peu plus les crédits pour la recherche, pour que cela revienne. Hein. Je pense que la décrochage n'est pas une fatalité, et que justement, il faut réagir, et qu'il faut revenir vers cette sanctuarisation.
Et vous le dites en cœur avec la directrice générale de l'Institut Pasteur. Nous retournons une dernière fois au standard. Romain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Votre question ou votre témoignage ?
J'ai une question toute simple pour nos intervenants. Je voulais savoir si, concernant les crédits européens, les chercheurs que vous avez en plateau se heurtent à un frein administratif pour demander ces crédits européens. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'administratifs pour obtenir ces crédits ?
Merci de cette courte question. On en a déjà un peu parlé, Élise Huillery. Ces crédits européens, pas assez disponibles, mais pas assez usités.
Oui,
difficile à obtenir, demande
difficile
notre auditeur.
À obtenir. Donc voilà, la question, c'est surtout sur la difficulté de monter les dossiers. Donc c'est vrai que ce sont des très gros dossiers à monter qui prennent énormément de temps. Une phase écrite, une phase orale, ça mobilise un temps pour les chercheurs extrêmement important.
Vous parliez de paperasse tout à l'heure.
Et ensuite, une fois qu'on obtient le financement, ce qui demande déjà un investissement en termes de temps extrêmement élevé pour avec un facteur de réussite faible. Une fois qu'on a ces financements, on a quand même beaucoup, effectivement, de reporting, de papiers à remplir. Bon, à la limite, c'est quand même normal de devoir rendre des comptes, effectivement. Et pour avoir un financement européen, je trouve que ce que je dois justifier me paraît relativement normal. C'est surtout la difficulté à obtenir, en fait, qui est importante.
Franchement, dans les pays qui nous entourent, hein, par exemple au Royaume-Uni, ils ont des aides. Il y a beaucoup d'aides qui aident à monter le projet.
Et donc, c'est tellement compliqué qu'il faut faire appel à des aides pour monter un dossier de demande de financement.
Alors qu'en France, on n'est pas aidé, on n'est pas assez aidé. Il y a quelques tentatives du CNRS, mais on n'est pas assez aidé.
Eh bien, merci à toutes les trois d'être venues rappeler l'importance de la recherche en France. Je rappelle que l'Académie des sciences, vous remettez des prix chaque année grâce à des dons privés d'entreprises ou d'organismes d'État. Et on suivra ça également sur France Inter. Merci à toutes les trois. La France Inter, on suivra également la suite parlementaire de ce projet de loi de finances et ce que deviendra ce budget de la recherche qui peut encore évoluer.